Les cours du Collège de France, Pascal Sonnella, chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt.
Bonjour, merci de votre présence aujourd'hui pour ce dernier cours de la chaire d'Innovation Technologique Liliane Bettencourt de cette année. Ce dernier cours, vous allez le voir, va rassembler un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début en termes de système quantique, en termes de méthodes, pour décrire le dernier domaine d'application majeur des technologies quantiques émergentes qui sont le développement de réseaux quantiques. Donc j'ai pris un titre au départ un peu plus technique. J'avais prévu de vous parler essentiellement d'interface et de mémoire quantique. Et puis en préparant le cours, je me suis dit que je pouvais élargir, que j'avais assez de place, j'espère, pour élargir un petit peu et positionner tous ces efforts technologiques dans le développement de ce qu'on appelle, de manière peut-être un peu abusive, un Internet quantique. Ambitieux. Et donc le sujet, comment poser le problème ? Eh bien le sujet va d'abord être de discuter de pourquoi on s'intéresse à aller au-delà des communications classiques dans le domaine des technologies quantiques. Pourquoi on ne se contenterait pas simplement d'avoir des composants qui se comportent au niveau quantique 2.0 localement, mais on est intéressé à au contraire connecter ces objets. Et donc je vais reprendre sur la première illustration que j'avais fait en fait à la leçon numéro 1 où j'avais introduit la notion d'échange de clés cryptographiques. On avait vu ensemble en utilisant les états d'un spin ou de la polarisation d'un photon comment échanger des clés de manière sécurisée en utilisant la superposition quantique. Et ce domaine majeur des communications quantiques, très particulier, est motivé par la menace potentielle d'un ordinateur quantique à grande échelle, avec correction d'erreur, de casser les clés d'encryptage actuelles qui sont basées sur la factorisation de grands nombres premiers. Et donc c'était cette première illustration que j'avais prise de ce réseau très impressionnant développé en Chine, à la fois terrestre par fibre optique et par satellite, d'échange de clés communication quantique. Donc c'est bien sûr une des premières motivations, répondre à cette menace, soit avec une approche informatique classique, c'est-à-dire trouver des méthodes d'encryption qui ne peuvent pas être accélérées par un ordinateur quantique, soit répondre à une menace quantique par une approche quantique en utilisant la loi de la mécanique quantique pour sécuriser les échanges d'informations. Donc c'est une première application. La deuxième, nous l'avions également mentionné quand nous avions parlé à la fois des critères qui sont nécessaires pour fabriquer un ordinateur quantique et puis ensuite quand on a rentré dans le détail des plateformes pour passer à l'échelle. Nous avions dit que dans les développements actuels, on constate que très probablement, on n'arrivera pas à fabriquer des ordinateurs quantiques avec des millions de qubits d'un seul tenant. On devra fabriquer des processeurs de plus petite taille et que pour connecter ces processeurs, nous devrons passer par un système de qubits volants, la lumière. Et puis il y a d'autres motivations qui sont certaines circonstancielles et peut-être d'autres qui vont durer. Les premières, c'est l'idée que dans les premières années où ces ordinateurs deviendraient puissants et stratégiques, ce seront malgré tout des moyens mis à disposition de communautés et que donc ce seraient des serveurs sur lesquels les acteurs se connecteraient pour réaliser leurs calculs et donc cette nécessité de confidentialiser ces échanges pour que ces calculs qui seraient nécessairement stratégiques puisque réalisés sur des machines extrêmement onéreuses restent confidentiels. Et de la même façon, j'ai rajouté un autre mot ici. Il y a l'idée avec le développement des capteurs quantiques. Donc, on a parlé des capteurs à base de diamants, mais c'est aussi des gravimètres, les horloges atomiques, etc. Que cette information, qui peut potentiellement être stratégique, serait aussi reliée à un central de façon sécurisée par les lois de la mécanique quantique. Alors, un défi majeur du développement de ces réseaux quantiques, et nous allons voir qu'il y en a beaucoup, un défi majeur, c'est les pertes optiques. On parle de lumière, bien sûr, pour échanger l'information. On a déjà parlé, quand on parlait de calculateurs quantiques à base de lumière, qu'une des premières sources d'erreurs, c'était les pertes. Et bien là, quand on réfléchit à l'échange simplement de clés cryptographiques entre deux points, on prend la transmission d'une fibre optique optimisée aux longueurs d'onde de télécommunication, ça fait environ 0,2 dB par kilomètre, et on regarde la perte en intensité sur la distance, et vous voyez que si vous partez d'un échange de clés à 1 MHz, à un taux de 1 MHz, au bout de 300 km, vous êtes tombé à 1 Hz. Et vous avez vraiment un gros problème pour réaliser des systèmes de sécurisé parce que vous avez une décroissance exponentielle de la probabilité que votre information arrive d'un point à l'autre, d'un bout à l'autre. Et donc, aller au-delà de quelques centaines de kilomètres, c'est un vrai défi. Et dans ce défi, on n'a pas de solution équivalente au système classique. Et donc, quels sont les défis auxquels on fait face ? Alors, le premier défi, c'est ce que je viens de dire, la perte du photon ou la perte du champ de lumière qui encode l'information. C'est également des erreurs. Si vous imaginez d'encoder l'information sur la polarisation et de la propager dans des fibres optiques, vous avez les fluctuations de l'environnement qui vont jouer sur la polarisation, la fluctuation de la phase, etc. Donc c'est tout un tir d'erreurs. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de comment on gère ces erreurs. Je veux juste faire apparaître très clairement que, et c'est un domaine qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans les 8 séances qu'on a ensemble, mais autant pour le calcul quantique, on a tout un protocole à réfléchir, à développer pour corriger les erreurs. C'est vrai également dans les communications quantiques. On a tout un tas de protocoles à mettre en œuvre pour corriger les erreurs. Et ces corrections d'erreurs ne peuvent pas être faites de manière classique. Et la perte du photon, elle ne peut pas être gérée non plus comme on gère aujourd'hui les pertes de l'information dans les fibres optiques qui réalisent notre réseau Internet actuel. Aujourd'hui, on a des fibres optiques qui relient le continent nord-américain au continent européen pour transmettre l'information. Et on envoie la lumière dans des fibres optiques, ce sont des lasers, des impulsions très puissantes, et ces lumières sont atténuées de la même façon que c'est le cas que je vous présente ici pour des lumières quantiques. La grosse différence, c'est que vous avez des millions de photons, et vous allez pouvoir utiliser un amplificateur classique pour réamplifier votre signal. Et dans le monde quantique, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça pour deux raisons. Une raison pratique, je dirais, c'est-à-dire que si on était capable de faire une amplification de cette façon-là, on introduirait énormément de bruit et d'erreurs. Et puis, il y a une raison très fondamentale que je n'ai pas abordée pendant ce cours, que je me disais qu'il fallait quand même que je vous présente avant la fin de ces 8 leçons, qui est un théorème très fondamental, qui est un théorème de non-clonage. La mécanique quantique nous dit qu'il est impossible de faire une copie d'un système quantique arbitraire. Et on peut démontrer ce théorème en quatre lignes, comme je l'ai indiqué ici. Imaginons que j'ai un état quantique psi et que j'essaye de trouver un système, une machine, qui est capable, à partir d'un état de vide, de la lumière, de créer une copie de mon état. Donc je pars de psi tensoriel 0 et j'ai mon opérateur qui représente ma machine, qui copierait psi sur l'état de départ, vide de départ. Pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, imaginons maintenant que ma machine elle doit fonctionner quel que soit l'état quantique, je vais pouvoir être capable de recopier n'importe quel état quantique. Je pars de deux états quantiques psi et phi différents. Les deux vont créer des copies, c'est-à-dire j'applique mon opérateur unitaire sur psi tensoriel 0 pour obtenir psi psi, sur phi tensoriel 0 pour obtenir phi phi. Et que se passe-t-il ensuite ? Regardons un petit peu sur une des propriétés essentielles de cette machine qui doit être représentée par un opérateur qu'on appelle unitaire mathématiquement. Cet opérateur décrit le fait qu'on n'a aucune perte d'information. L'uniticité de cet opérateur décrit le fait qu'on n'a pas de perte d'information. Et la conséquence, c'est que ça conserve le produit scalaire. Alors si je prends le produit scalaire de départ, eh bien j'avais psi tensoriel 0, scalaire phi tensoriel 0. Donc, 0, scalaire 0, ça fait 1. Et donc, mon produit scalaire de départ, c'est psi, scalaire, phi. Alors qu'à l'arrivée, j'ai psi, psi, scalaire, phi, phi. Donc, ça me fait psi, scalaire, phi au carré. Et donc, si je veux conserver le produit scalaire, ça veut dire que je dois avoir cette relation qui est vérifiée, que le produit scalaire psi, phi est égal à son propre carré. Et donc, ça, c'est une équation très simple à deux solutions. Soit psi scalaire phi égale 0, soit phi scalaire phi égale 1. Donc je ne peux créer un opérateur qui copie les états quantiques que si ces états quantiques soient identiques au départ, soit orthogones. Et donc cette version très simple de la démonstration du théorème de non-clonage nous impose une loi très forte de la mécanique quantique qui vous dit que vous n'allez pas pouvoir recopier un état quantique pour, de certaine façon, amplifier de manière quantique votre signal. Donc il va falloir trouver d'autres façons de s'affranchir des pertes au fur et à mesure de la distance par rapport à la façon dont nous le gérons de manière classique. Alors j'ai pris des dessins de cet article de revue de 2007 qui discute de diverses façons d'augmenter la distance. Alors on part d'Alice et Bob, toujours on est dans un protocole d'échange de clés cryptographiques, et Qu'y a-t-il ici? Eh bien, simplement un lien direct. Alice envoie ses photons vers Bob. Ici, on se dit, si j'ai une paire de photons intriqués, je vais pouvoir envoyer à partir d'un nœud central un photon à droite, un photon à gauche. Je vais doubler la distance par rapport aux pertes. Ça, c'est bien. Déjà, on a gagné un facteur 2. Mais si je veux aller plus loin, eh bien, cet article discute de protocoles que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Ici, vous voyez un protocole de téléportation. Ici, un protocole d'échange d'intrications. Et en gros, on arrive vers l'idée qu'on va devoir multiplier des nœuds. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple de celui-là que nous allons regarder en détail. Vous voyez ici que j'ai pris deux sources de photons intriqués. Et puis au milieu, je vais faire quelque chose de très spécial qu'on appelle une mesure de Bell, Bell State Measurement. Donc on va regarder ça en détail, mais c'est le protocole qu'on va regarder, c'est celui-là. Imaginez que cette fois-ci, Alice et Bob vont avoir un photon d'une paire d'un côté et un photon de l'autre paire de l'autre, et au milieu, on va faire une opération pour augmenter la distance, transférer l'intrication de ce point-là à ce point-là pour partager la distance entre Alice et Bob. D'accord ? Donc on va regarder ça, ça s'appelle une mesure de Bell. Et donc c'est la première idée à laquelle on peut penser pour augmenter la distance d'échange de clés cryptographiques. Mais maintenant, si je fais un dessin très grossier et que j'imagine un réseau quantique très sophistiqué, dans lequel je vais avoir d'abord ce que j'appelle des nœuds finaux, c'est-à-dire à un endroit ici un ordinateur quantique, là ou là, ici un capteur quantique, ici une horloge quantique, ça va être les éléments de mon réseau que je vais vouloir coupler. Je vais les coupler par des canaux quantiques qui ont pour fonction de propager l'information, qui vont être soit des fibres optiques, soit des échanges par satellite. Et puis, vous voyez que je suis obligé de mettre, puisque je viens de parler de problèmes de perte de probabilité au fur et à mesure de la distance, on va mettre des nœuds au milieu, là, en mauve, des répéteurs quantiques qui permettent d'augmenter la distance, qui permettent de connecter deux objets avec un taux raisonnable. Donc ça, c'est les premiers trois ingrédients. Maintenant, regardons ensemble un échantillon de machines que nous avons vues ensemble. Des ordinateurs quantiques à base de photons, des ordinateurs quantiques à base d'atomes ou d'ions, à base de qubits de spin dans le silicium, de qubits supraconducteurs, des capteurs à base de diamants magnétiques, des capteurs à base d'atomes froids qui mesurent la gravité, ou encore des horloges atomiques. Vous voyez qu'ici, si je veux relier tout ce monde-là à un réseau quantique, j'ai un problème qui est de transférer l'information de mon système local, un qubit à base d'ions, un qubit à base d'atomes, vers un photon. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle des interfaces, transférer l'information du nœud, qui est un qubit de matière, à la lumière. Vous voyez que je ne l'ai pas mis ici pour le photon, puisque là on est déjà dans le régime qui permet de transférer l'information. Donc c'est un des avantages de la plateforme photonique. Et puis, eh bien, on va devoir regarder également les longueurs d'onde auxquelles fonctionnent tous ces systèmes. On regardera ça ensemble, mais dans les systèmes de communication classiques, soit les fibres optiques, soit l'atmosphère pour communiquer avec le satellite, il y a des fenêtres de forte transmission, puis il y a des fenêtres de forte absorption qu'on ne peut pas utiliser. Donc il faut se mettre à certaines longueurs d'onde précises. Et donc, quel que soit le système, pour la plupart des systèmes, il va en plus falloir convertir l'information quantique sans perdre l'information d'une longueur d'onde à une autre. Et puis enfin, je vous le montrerai rigoureusement, en fait, on ne va pas pouvoir simplement avoir des répéteurs quantiques simples, comme ce que je vais vous montrer au début, simplement photoniques. On va devoir, en général, ajouter d'autres ingrédients pour synchroniser tout ça. Et donc, ce sera des mémoires quantiques. Et puis ici, j'ai mis en vert une image que vous devez reconnaître du cours où on a parlé du calcul quantique photonique, qui représente des états où on a beaucoup de photons intriqués, qu'on va pouvoir utiliser aussi pour augmenter la distance de manière astucieuse, que je ne vais pas pouvoir aborder aujourd'hui. Donc ce sera le seul point dans cette carte d'objets que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Voilà, et donc cette vue d'ensemble me donne le menu de notre cours aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter ce qu'on appelle les primitives des répéteurs quantiques, c'est-à-dire les fonctions qu'on implémente, qu'on a besoin d'implémenter. Ça sera la mesure de Bell. Et ensuite, je vais vous expliquer comment on peut faire de la téléportation quantique et de transfert d'intrication. Ensuite, je vais vous présenter ces systèmes qu'on met au milieu du réseau pour répéter l'information, augmenter la distance, ces objets qui sont à l'interface entre des systèmes volants et des systèmes stationnaires, des mémoires quantiques ou des interfaces. Et je vais séparer en deux catégories, des mémoires et des interfaces qui exploitent un seul qubit et des mémoires et des ensembles et des mémoires quantiques qui utilisent des ensembles de qubits. On appelle ça des ondes de spin, et donc je vais vous décrire ce système qui est largement utilisé dans les mémoires quantiques. Ça me permettra ensuite d'aborder la dernière chose dont on a besoin, c'est la conversion de fréquence, comment on peut passer, transporter l'information d'une fréquence à une autre en gardant l'information quantique. Et ce qui me permettra enfin de vous montrer comment on peut effectivement distribuer l'information sur un réseau quantique. Je serai brève en m'appuyant sur le fait que vous aurez ensuite un magnifique séminaire du professeur Tracy Northrup, qui est spécialiste du domaine et qui développe des réseaux quantiques à base d'ions et de photons. Alors commençons par regarder ces primitives de répéteurs quantiques. Et pour ça, je vais commencer avec vous rappeler ces états photoniques intriqués particuliers que nous avions vus au cours numéro 2, qu'on appelle les états de Bell. Donc ce sont des états, alors j'ai pris un encodage de la formation en polarisation, horizontale et verticale, et on a 4 états de Bell, qui sont des états maximalement intriqués, qu'on appelle phi plus, c'est l'état HH plus VV sur racine de 2, phi moins HH moins VV sur racine de 2, psi plus HV plus VH sur racine de 2, et psi moins HV moins VH sur racine de 2. Je vous avais montré, c'est un slide que j'avais déjà montré au cours numéro 2, je vous avais montré comment on caractérise ces états avec les matrices densité ici, dans la base HH, HV, VH, VV. Alors je vais revenir un tout petit point sur comment on génère ces photons, parce que j'avais insisté sur la génération de photons uniques, mais je n'avais pas donné vraiment l'explication de comment, avec des systèmes qu'on a déjà regardés ensemble, des systèmes non linéaires et des systèmes à base de boîtes quantiques, on peut générer des photons intriqués. Donc je reviens sur ça brièvement. On avait vu ensemble que pour générer des paires de photons et ensuite utiliser un photon pour annoncer la présence d'un autre photon, on pouvait utiliser un laser de pompe sur un cristal non linéaire et créer des photons à deux fréquences différentes, donc à fréquence pompe égale la somme des fréquences du signal et de Heidler en anglais, du jumeau. Et on avait parlé aussi des règles de conservation de l'impulsion qu'on appelle l'accord de phase. On avait écrit cet état qui disait que si on pompait le système juste au seuil de conversion de fréquence, eh bien on ne créait pas souvent une paire de photons uniques, mais de temps en temps, avec une probabilité eta carré, on avait une paire de photons. Et malheureusement, avec une probabilité eta 4, deux paires, qui est une erreur. Ce que je n'avais pas commenté, c'est comment, à partir de ce genre de mécanisme, on peut obtenir des photons intriqués, des paires de photons intriqués, cet état HH plus VV par exemple. Et donc je vous donne ici en fait une figure qui vient du papier fondateur, je dirais, du domaine, qui date de 1995, il a 30 ans cet article, qui montre que en fait quand on considère les règles d'accord de phase dans certains types de cristaux, eh bien en fait les paires de photons vont être émises sous forme de cônes. Et ces cônes ces cônes apparaissent parce qu'on a des matériaux biréfringents, et vérifie ces règles de conservation de l'énergie et de conservation de l'impulsion, et vous donne lieu comme ceci à deux cônes, un en polarisation H et l'autre en polarisation V. Et donc l'astuce qui a été proposée en 1995, c'est de sélectionner l'intersection de ces deux cônes, où vous ne savez pas si les photons sont H ou V, et ce qui est montré dans cet article, c'est qu'à ces endroits-là, vous en fait créez un état HV plus un facteur de phase VH sur racine de 2. Et donc on obtient simplement ici, avec ces technologies, des paires de photons intriqués. Malheureusement, il y a quand même la probabilité de créer une deuxième paire, et c'est pour cela que vous devez travailler à une probabilité état carré très petite devant 1, donc un très faible flux de photons. Donc c'est pour ça que je veux quand même mentionner l'autre technologie qu'on avait discutée au cours numéro 4 pour la génération de photons uniques, et qui permet aussi de générer des photons intriqués de manière très efficace. La maturité technologique sur ce domaine vraiment est aussi importante. Malheureusement, bien sûr, ça fonctionne à température cryogénique. Mais sur le principe et en pratique, l'idée, c'est de partir de ces atomes artificiels que nous avions introduits, qui sont des boîtes quantiques semi-conductrices, et de créer deux excitations élémentaires. Avec un S, ça sera mieux d'ailleurs. Deux excitations élémentaires dans le système. Et le système ensuite va recombiner vers l'état fondamental en émettant deux photons, on appelle ça une cascade radiative, un photon puis un deuxième. Et il y a, pour des règles de sélection de polarisation, deux chemins. Soit on émet d'abord un photon de polarisation circulaire droite puis gauche, ou gauche puis droite. Et donc en mécanique quantique, quand on a deux chemins comme ça, en général, ça veut dire qu'on va avoir une superposition quantique. Et donc avec ce système, on peut créer ces états-là, right-left plus left-right sur racine de 2, de manière très efficace et ici sans limite sur la possibilité d'avoir une source très brillante. Je vous montre ici une mesure de matrice densité de ces états, d'un article qui n'est plus si récent que ça en fait, qui montre une très grande qualité des photons et elle a encore largement augmenté. Et cet article d'un an plus tard qui montrait la possibilité d'avoir une très grande efficacité, hein, de plus de 90% de ces paires de photons. Donc bien sûr, c'est une technologie alternative. Aujourd'hui, pour l'instant, on utilise plutôt dans les réseaux l'autre technologie qui est peu efficace mais qui est facile à implémenter. Alors à partir de ces états de Bell, on a besoin d'un outil qu'on appelle la mesure de Bell, qui découle de ce que nous avions vu à la leçon numéro 5, quand on avait discuté de comment faire d'intriquer les photons en envoyant deux photons sur un cube séparateur. Alors une mesure de Bell, je dirais que sa définition, c'est de faire une mesure sur deux qubits dans une base d'état de Bell, c'est ces quatre états dont je vous ai parlé, pour connaître l'état dans lequel les deux photons étaient. C'est une mesure pour obtenir une information a posteriori en mesurant une information, en faisant une mesure. Et donc je vais prendre un état à deux photons arbitraire, n'importe quel état écrit sous la forme H alpha H plus bêta HV plus bêta VH plus delta VV. Et je vais constater que je peux le réécrire en changeant de base, en remarquant que je peux, à partir des quatre états de Bell, obtenir les états HH, HV, VH et VV. Par exemple, l'état HH, c'est phi plus phi moins sur racine de 2. Donc je fais un changement de base, ce qui veut dire que mon état de départ, qui était alpha, HH, etc., je peux l'écrire avec d'autres coefficients, comme un terme en phi plus un terme en phi moins, plus un terme en psi plus un terme en psi moins. Je change de notation, j'appelle ça alpha prime, bêta prime, gamma prime, delta prime, mais simplement pour vous dire que n'importe quel état quantique peut s'écrire dans la base des états de Bell. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien, vous allez voir, nous allons regarder chaque état de Bell et nous allons envoyer cet état de Bell entre les deux états ici à l'entrée, un photon à droite, un photon à gauche, dans le chemin A, dans le chemin B, et nous allons regarder ce qui se passe sur la sortie, comment ces états se transforment à la sortie. Donc prenons l'état, le premier état, psi moins, qui est HV moins VH. Je peux l'écrire sous la forme des opérateurs. A croix, je crée un photon en H en A. Je crée un photon dans le chemin B en V, moins A croix V, B croix H. Donc ça, c'est mon état HV que j'ai mis à l'entrée A et B. Et puis j'ai ici la transformation réalisée par ma lame semi-transparente qu'on avait déjà décrite. Alors je crois qu'à l'époque, j'avais mis des termes de phase I ici, que j'ai laissé tomber aujourd'hui pour simplifier, parce que ça ne change rien sur le fond. Et pour écrire les équations de manière plus simple. Donc si maintenant je transforme mon état A vers C plus D et mon état B vers C moins D, j'ai tous ces termes-là. Bon, eh bien regardons. Ici, j'ai créé un photon en C en H et un photon en C en V, et là j'ai moins la même chose, parce que c'est deux opérateurs commutes, donc ces termes-là disparaissent, et pareil complètement à droite. Donc quand je regarde comment se transforme mon état psi moins à l'entrée A et B, je peux montrer qu'en fait, il me donne un état en fait psi moins à la sortie, avec un photon qui sort de chaque côté, avec des polarisations différentes. Ok, c'est ce qui se passe pour l'état psi moins. Regardons l'état psi plus. L'état psi plus, c'est le même, mais sauf qu'avoir moins là, j'ai plus là. Je refais ma transformation. Cette fois, les termes qui restent, c'est les complémentaires de tout à l'heure. Les termes qui restent, ce sont ici les premiers et les derniers, et ceux du milieu ici s'annulent. Ce qui me donne que l'état psi moins à la sortie va me donner en réalité une superposition quantique d'un photon qui sort, de deux photons qui sortent en C, avec des polarisations différentes, et deux photons qui sortent en D, avec deux polarisations différentes. Donc sortie sur le même chemin, polarisation orthogonale. Et puis maintenant, il me reste les états phi plus et phi moins. J'ai arrêté d'écrire le calcul. Hein. Vous me faites confiance. Cette fois, on part de HH plus ou moins VV. Et quand on fait la transformation, eh bien là, on a des termes beaucoup moins sympathiques. Vous allez voir pourquoi je trouve que c'est moins sympathique. Parce que les deux photons sortent du même côté avec la même polarisation, soit en V, soit en H, soit en D, et soit en C, soit en D, soit en H. Donc ils sortent avec la même polarisation, avec le même chemin. Ça, ça ne m'aide pas à savoir, à discriminer les états. Donc si je résume, j'ai ici, si je pars de l'état psi moins, mes photons sortent séparément. Si je mets deux détecteurs à la sortie, si j'ai un clic là et un clic là, ça me dit que mon état était dans l'état psi moins. Si je pars de psi plus, la transformation me dit que mes photons vont sortir ensemble, soit en C, pardon, et en C et en D, mais avec deux polarisations différentes. Alors avec ce dispositif-là, je ne suis pas capable de discriminer, mais si à la sortie, je mets un cube polarisant séparateur qui va séparer les deux polarisations en H, en V, ici sur le chemin C, ou en H, en V, ici sur le chemin D, eh bien maintenant, je vais pouvoir savoir si mon état était dans l'état psi plus. Ça veut dire que j'ai eu un double clic ici et ici, en C, H et V, ou un double clic ici, ici, en D, H et V. Et donc si j'ai ces double clics-là à gauche ou à droite, je sais que mon état était dans l'état psi plus. Et puis le dernier cas, eh bien là, il n'y a rien à faire. Les photons sortent ensemble du même endroit, je ne suis pas capable de discriminer. Donc ce genre de mesure de Bell, où ici j'ai un petit peu amélioré le dispositif pour avoir 3 séparateurs de faisceaux et 4 détecteurs, me permet de dire a posteriori si mon système quantique était dans un état de Bell de différents types, soit psi plus, soit psi moins. Alors, ça paraît un petit peu fastidieux tout ça, mais vous allez voir, c'est très utile. Et je vais l'illustrer avec la fameuse téléportation quantique, qui n'est pas du tout celle de la science-fiction. Vous allez voir, c'est simplement un transfert d'informations. Où le protocole est le suivant, et on va utiliser une mesure de Bell. On part d'Alice, qui a un qubit, alpha H plus beta V, à envoyer à Bob, à téléporter à Bob. Bob, lui, dispose d'une paire de photons intriqués, HV moins VH. Si j'écris l'état conjoint des deux, de Alice fois Bob, tensoriel Bob, j'ai un état qui fait apparaître quatre termes ici, H1, H2, V3, H1, V2, H3, etc., que vous voyez apparaître là. Maintenant, j'ai dit que je pouvais changer de base pour écrire des états dans la base HV. Donc, je vais faire ça, mais je vais faire ça pour les photons 1 et 2, qui n'ont aucun lien. Je vais écrire l'état H1, H2 en utilisant phi plus et phi moins. Donc, du coup, je vais me retrouver avec tous ces états-là. Je vais pouvoir écrire mon système sous la forme d'états psi plus, psi moins, phi plus, phi moins, qui correspondent aux photons 1 et 2, tensoriel des états du photon 3. D'accord ? Bien. Et maintenant ? Eh bien, l'idée, c'est que maintenant que j'ai écrit ces états-là sous la forme psi, point, psi moins, psi plus, phi moins, phi plus pour 1 et 2, c'est que je vais réaliser une mesure de Bell sur les états, les photons 1 et 2. Je vais ici les envoyer sur un cube séparateur, je vais mettre deux détecteurs et je vais faire la mesure de Bell qu'on vient de discuter. Et donc si j'ai un clic là et un clic là, on a dit que la mesure de Bell me dit que mon état 1,2 était dans l'état psi moins, ici. Ça veut dire que je projette mon système dans cet état ici, psi moins tensoriel alpha H plus bêta V. Et ça veut dire que mon photon numéro 3 est, suite à cette opération réalisée sur les photons 1 et 2, il est dans l'état alpha H plus bêta V, qui est exactement le qubit que Alice avait encodé. Donc j'ai transféré l'information de mon photon 1 vers mon photon 3 en faisant une mesure de Bell entre le photon 1 et le photon 2. C'est à ça que ça sert. Donc, vu de loin, là, j'ai l'impression que j'ai triplé ma distance. Hein. J'ai pris deux paires de photons, ça double la distance. J'ai pris un deuxième photon au milieu, j'ai fait une opération et j'ai envoyé de l'information d'Alice à Bob en téléportant l'information en utilisant ce protocole de téléportation quantique. Si jamais la mesure de Bell est pas celle-là, mais celle qui est un petit peu plus sophistiquée, qui me permet de mesurer si l'état est en psi plus, de savoir si c'est soit psi moins, soit psi plus, eh bien, quand je mesure psi plus à la mesure de Bell, cette fois-ci, mon photon 3 est dans l'état alpha H moins bêta V. Alors, ce n'est pas exactement mon qubit, mais c'est quand même pas très loin. C'est mon qubit à une correction de phase près. Et donc, dans ces protocoles de téléportation quantique, on va avoir quelqu'un ici, là, à l'endroit où on fait la mesure de Bell, qu'on appelle un nœud intermédiaire, qui va pouvoir communiquer à Bob s'il a mesuré psi plus ou psi moins. Par un canal classique, ça n'empêche pas la sécurité du transfert d'informations qui permettra à Bob de corriger ou pas l'état. Et le résultat étant aléatoire de la mesure au milieu, on a toujours gardé la sécurité de l'information. Voilà, donc là vous avez un protocole de téléportation quantique qui permet d'emmener l'information de Alice vers Bob en ayant en apparence, en tout cas, augmenté la distance. Et puis, vous voyez ici le dernier protocole que je vais introduire. En anglais, ça s'appelle Entanglement Swapping. En français, transfert d'intrication. Où cette fois, Alice et Bob ont chacun une paire de photons intriqués. Au milieu, on va utiliser le photon 2 et le photon 3. On va leur faire réaliser une mesure de Bell. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir téléporter l'intrication qui était au départ. On avait au départ l'intrication entre le photon 1 et le photon 2. Et d'autre part, le photon 3 et le photon 4. Et après cette mesure que nous allons faire au milieu, on va montrer que les photons 1 et 4 sont intriqués. Donc je pars à gauche d'un état phi plus. Alice a un état H1, H2 plus V1, V2 sur racine de 2. Bob a un état intriqué H3, H4 plus V3, V4 sur racine de 2. Ils envoient leurs photons 3 et 4 au milieu. Et on va faire une mesure de Bell. L'état total de Alice et Bob, phi plus 1, 2, tensoriel phi plus 3, 4, a cette forme-là. Il faut faire le calcul, mais on peut montrer qu'il a cette forme-là. Et cette forme-là, vous voyez qu'on a tout le temps l'état 2, 3 et l'état 3, 4, pardon, l'état 2, 3 et l'état du photon 1, 4 dans le même état. Et donc, si je fais une mesure de Bell simple ici au milieu et que je dis « Ah, j'ai eu un clic là et un clic là, ça me dit que mon photon 2 et mon photon 3 étaient dans l'étape 6-, et bien vous voyez qu'ici, le résultat, c'est que le photon 4, le photon 1 et le photon 4 sont maintenant intriqués dans l'étape 6-. Donc j'ai transféré l'intrication de deux particules, de deux paires qui n'étaient pas intriquées respectivement en faisant une mesure au milieu vers celui d'extrême gauche à celui d'extrême droite. Et donc c'est possibilité de transférer l'intrication d'un photon à l'autre en réalisant des mesures de Bell a été d'abord pensée comme peut-être une solution pour étendre la distance des clés cryptographiques, de réalisation des clés cryptographiques pour s'affranchir des pertes, ou pour en tout cas essayer de corriger ce problème-là. Alors faisons un tout petit calcul. J'appelle P de L la probabilité d'avoir mon information qui va d'un point A à un point B sur une distance petit l ici. Et donc c'est P0, c'est-à-dire en gros... C'est un nombre qui est inférieur à 1 qui me dit l'efficacité de réaliser mon opération localement. Et puis j'ai l'atténuation exponentielle moins L sur grand L, la longueur d'atténuation typique, après, qui me donne l'atténuation de mon signal dans le canal. Et donc l'idée, vous voyez, là j'ai rajouté, j'ai pas pris deux paires, maintenant j'en ai pris trois. Alice a une paire, il y a quelqu'un au milieu qui a une paire, il y a Bob qui a une paire. Là j'ai coupé mon segment en 3 et j'essaye de multiplier ça par un grand nombre de fois. Et à chaque fois, je mets au milieu, entre deux paires, une mesure de Bell pour transférer l'intrication de là à là, puis de là à là, pour aller en fait sur une plus grande distance. Et donc je vais avoir n liens élémentaires, et puis je vais faire n-1 mesure de Bell, qui permettront de faire du transfert d'intrication. Et donc la probabilité d'avoir un succès de bout en bout, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à la probabilité sur chaque segment de transférer l'information puissance n, fois la probabilité que la mesure de Bell marche. Puissance n-1. Alors déjà, la mesure de Bell, on a dit qu'on pouvait discriminer 2 états sur 4. Donc son taux de succès est toujours inférieur à 1,5. Donc ça se passe mal. Hein. 1,5 puissance n-1, ça ne va pas très bien. Et puis ensuite, quand l'autre terme, j'ai découpé mon segment en morceaux, L sur N, mais je le multiplie à la puissance N. Donc finalement, mon facteur exponentiel ici il revient. Je l'ai à nouveau. Mais en plus, j'ai les pertes que j'ai à chaque nœud, localement, sur la probabilité de succès qui est P0. Donc en fait, ça ne marche pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire, si vous essayez de faire ça comme ça, d'augmenter la distance, vous avez un problème de synchronisation qui fait que vous essayez de tout faire en même temps et la probabilité d'essayer de tout faire en même temps, bah, elle décroît exponentiellement. Et donc c'est une façon de vous montrer qu'en fait, on ne peut pas faire comme ça. On doit, d'une certaine façon, stocker l'information quelque part pour que non pas tout réussisse en même temps, mais qu'à chaque fois qu'un nœud fonctionne, je garde l'information et ensuite j'additionne tout ça pour réaliser mon transfert d'intrication sur une longue distance. Et donc les architectures auxquelles les chercheurs sont arrivés ressemblent, alors j'ai pris une image, c'est une illustration parmi d'autres, à ce genre de structure où ici, vous reconnaissez mes mesures de Bell, là, sur les beam splitters, mais ici, vous avez à la fois des mémoires qui permettent, qui sont couplées à la lumière, puis ici, en vert, des mémoires qui donnent qui gardent la formation longtemps. Et donc, le système va, en fait, agir de manière successive, comme je vous l'ai montré, mais pas de manière synchrone, et pas seulement avec des photons, mais en stockant l'information sur des mémoires localement pour augmenter la probabilité. Et donc, ça m'emmène vers la deuxième partie de mon exposé, qui qui va être de vous montrer comment on stocke l'information et comment on l'interface ensuite avec mes nœuds, mes ordinateurs quantiques. Et donc, je vais présenter ici, je présente d'abord à gauche les mémoires quantiques. Je dirais que c'est des systèmes qui, quand la lumière arrive à un endroit, va permettre de transférer l'information vers un qubit de matière pour stocker l'information, ou vers un ensemble de spins, on regardera ça ensemble, pour également stocker l'information. Et puis on a aussi besoin d'interfaces quantiques pour aller des atomes, des ions, des boîtes quantiques, des qubits supraconducteurs, qui sont des qubits stationnaires, faire des qubits volants. On a deux façons de le faire, je dirais, soit un transfert direct de l'information de l'un à l'autre, ou en intriquant les deux. Et tout ça avec une diversité de systèmes qui est phénoménale, comme je vous ai montré, puisqu'on a énormément de systèmes qui permettent à la fois de faire des calculs, des capteurs, des horloges, etc. Et que nous avons tous vu, hein, je vous ai mis des images de tout ce qu'on a vu depuis le début du cours. Et donc, je dirais que dans les fonctions recherchées, notamment pour les interfaces quantiques, je décrirais cette interface quantique très simple. Comme j'ai une information, un qubit alpha 0 plus bêta sur mon spin, mon système à deux niveaux, et je vais le transférer sur mon qubit volant, alpha 0 plus bêta 1. Je vais vous montrer un exemple de ça, mais en fait, ce n'est pas l'approche qui est la plus utilisée. L'approche qu'on va le plus rechercher, ça va être d'intriquer l'état d'un qubit stationnaire et d'un qubit volant, créer un état de Bell, 0, 0 plus 1, 1 sur racine de 2, entre le qubit stationnaire et le qubit volant, de sorte qu'on pourra téléporter n'importe quelle information en utilisant ces états de Bell. Et puis de manière symétrique, pour les interfaces avec un seul qubit, il s'agira d'envoyer un qubit volant, l'information d'un qubit volant, et la stocker par exemple dans un qubit stationnaire. Et je vais vous montrer des exemples de ça. Quelles sont les métriques pour caractériser ces interfaces? La première, ça va être la fidélité. Est-ce que mon information est transférée de manière fidèle du qubit volant au qubit stationnaire et vice-versa? Ou est-ce que mon intrication est aussi très maximale? Le deuxième point, c'est l'efficacité. Et là, je reviens sur ce qu'on a discuté quand on a développé des sources de photons uniques. On a dit qu'on pouvait prendre un système à deux niveaux, lui donner de l'énergie, il nous la rendait sous forme de photons. Et on avait expliqué que ces photons étaient émis dans toutes les directions de l'espace et que pour résoudre le problème, on plaçait l'atome entre deux miroirs pour accélérer son émission dans une direction donnée, forcer l'atome à émettre dans une direction donnée et récupérer de très manière efficace le photon. Et bien, pour faire des interfaces quantiques, c'est la même chose. On a besoin que l'information qui va être transférée de l'atome vers le photon soit collectée de manière efficace. Et donc ça, c'est la deuxième chose, c'est l'efficacité. Donc en général, on va avoir besoin de mettre une cavité optique autour de notre qubit qui encode l'information pour récupérer l'information envoyée au photon. Et puis la dernière condition, c'est que les photons soient indiscernables, comme on l'avait vu pour le calcul quantique, pour faire des opérations quantiques. Ici, en fait, quand je vous ai décrit les mesures de Bell, je me suis placée dans un formalisme qui est exactement le même que celui que je vous avais décrit pour montrer que quand on envoyait deux photons sur une lame semi-transparente et qu'ils étaient identiques, ils sortaient ensemble de chaque côté. Tout ce que j'ai écrit tout à l'heure pour expliquer les mesures de Bell, c'est exactement dans ce formalisme-là. Et donc, ça fait l'hypothèse que les photons sont absolument identiques. Donc, il nous faut ces trois conditions-là. Alors, je vous donne un premier exemple de transfert d'informations directes qu'on a réalisé récemment, je vous le montre parce qu'il est très simple, avec nos systèmes à boîte quantique. Quand on envoie un laser sur notre système à deux niveaux que constitue l'atome artificiel, on a vu ensemble qu'on pouvait faire des oscillations de Rabi pour emmener le système dans une superposition de l'état fondamental et de l'état excité. C'est comme ça qu'on manipule notre qubit. Là, je reviens au cours numéro 1, hein, où on a expliqué comment on fait passer le spin dans une superposition spin-up et spin-down. Eh bien, ce qu'on a montré en 2019, c'est que quand vous mettez votre atome dans cette superposition quantique ici, CG plus CEE, et que vous laissez l'atome ensuite émettre de la lumière, vous récupérez un état photonique qui a exactement la même structure. C'est C0 photon plus C1 1 photon. Et donc, vous avez exactement transféré un qubit encodé sur un atome vers un qubit photonique. Très simple. Je vous donne maintenant un exemple réalisé dans l'équipe de Gerhard Rempe qui nous avait donné ce séminaire il y a 3 semaines sur la génération d'intrication avec des atomes et des photons, où il a réalisé une interface à la fois entrante et sortante. L'information du photon est stockée sur l'atome et l'atome ensuite restitue l'information. Donc c'est toujours ces systèmes d'atomes piégés, ici avec des lasers. Vous voyez ici les miroirs, donc vous avez un seul atome, des miroirs, Et puis, un protocole qu'on va regarder ici. Vous avez tout un tas d'états compliqués que vous devez reconnaître un petit peu. On les a regardés ensemble quand on a regardé les états quantiques utilisés dans les ordinateurs quantiques à base d'atomes et d'ions. Ils ont en fait ici des lasers qui sont illustrés en bleu ici, qui sont tout le temps allumés. Enfin, tout le temps, vous allez voir. Et puis, ils partent aussi de cet état ici de particulier zéro avec une superposition de photons avec une polarisation gauche et polarisation droite. Et ce qui se passe, c'est que ces photons qu'ils envoient, ce photon unique qu'ils envoient là, parce qu'il y a des lasers qui ramènent vers le bas, ça va créer une superposition entre ici les deux états de l'atome ici, entre les états du bas là. Donc vous avez transféré l'information de ces deux photons, la superposition quantique entre les deux états de polarisation de ces deux photons et ces deux atomes. Et ensuite, ça c'est l'écriture, et ensuite pour lire, récupérer le photon, ressortir le photon, repasser d'un qubit stationnaire à un qubit volant, ils vont faire le protocole inverse, ils vont allumer les deux lasers bleus et cette fois-ci, les atomes vont réémettre les deux photons avec la polarisation sigma plus et sigma moins correspondante. Alors vous voyez que ce système est extrêmement évolué parce qu'on est capable de transférer l'information du photon vers l'atome, de l'atome vers le photon. Ils sont déjà en cavité avec une efficace collection des photons. Et puis, dans un papier antérieur, ils avaient montré qu'ils étaient capables d'avoir des photons indiscernables. C'est ce que je vous montre ici, l'indiscernabilité des interférences à deux photons réalisées pour tester l'indiscernabilité des photons. Une indiscernabilité qui n'était pas maximale, mais quand même de l'ordre de 80%. Et donc, sur ce schéma expérimental, ici, vous voyez une donnée expérimentale où on voit le signal mesuré. Donc, en vert, la partie hachée ici, c'est le photon, le signal qui apporte le photon, qui va écrire le signal sur l'atome. Et vous voyez ici les lasers bleus, que j'avais dit qui étaient toujours allumés, qui vont en fait s'éteindre pour stocker l'information dans l'atome. Ensuite, ils laissent passer un certain temps, ici quelque chose comme une microseconde. Et donc là, on a écrit. Et puis, une microseconde plus tard, ils rallument le laser bleu pour récupérer le photon. C'est le signal rouge. Et là, l'information est repassée de l'atome vers le photon ici. Écriture, lecture. Et ce que vous voyez ici, c'est une mesure de corrélation de photons, comme on avait discuté au cours numéro 2, qui montre, par l'absence de pic ici à zéro délai, qu'ils ont bien restitué un seul photon de leur atome. Donc on a vraiment une interface qui réussit à transformer l'information d'un photon vers un atome et de retour vers un photon. Dans cet exemple, j'ai voulu vous montrer également cette façon de représenter le protocole qui décrit en fait la fidélité du processus de transfert d'informations. On appelle ça en anglais process tomography, c'est on va qualifier à quel point notre information a été transmise de manière fidèle. Et donc ici, vous voyez une carte ici où vous voyez, en fait, ça fait référence à trois matrices de Pauli et 0 correspond à l'identité. Donc vous voulez que votre processus soit fidèle, donc que vous réalisiez simplement l'identité. Vous devez avoir la même information à l'entrée qu'à la sortie en étant passé par le photon. Pardon, en étant passé par l'atome. Et donc ils font une mesure, je vous explique comment, qui permet d'identifier les erreurs qu'il y aurait dans leur processus. Vous voyez que l'identité est majoritaire, mais il y a des erreurs ici qui apparaissent, ici en sigma z, qui est un problème de déphasage, qui définit qu'il y a, dans la transformation, ils ont perdu un peu d'information sur la phase entre deux états. Et les erreurs ici sont décrites comme des sigma x, sigma y, etc., qui décrivent en fait d'autres types d'erreurs. Et donc, je voulais vous montrer ça, parce que ces genres d'outils-là, c'est des outils qu'on développe de plus en plus pour quantifier les erreurs, c'est un sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder, les mesurer et ensuite pouvoir les corriger. Voilà, un bel exemple d'interface photon-atome-photon. Pas d'intrication ici. Les prochaines interfaces qui nous intéressent, ce sont celles, vous allez voir pourquoi à la fin, qui intriquent le qubit de matière et le qubit volant. Et alors là, j'ai repris un slide qu'on avait déjà vu ensemble, parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc notamment avec nos boîtes quantiques et puis également avec le professeur Gerhard Rempe, on avait montré qu'il était facile en fait dans certains systèmes de créer une intrication entre le spin et le photon. Donc pour mémoire, on a ici une boîte quantique semi-conductrice dans laquelle on a piégé un électron. L'électron peut avoir soit un spin qui pointe vers le haut, soit un spin qui pointe vers le bas. Et les règles de sélection optique nous disent que si le spin pointe vers le haut, le photon émis va avoir une polarisation qui tourne à gauche, et si le spin pointe vers le bas, le photon émis va avoir une polarisation qui tourne à droite. Et si on est capable de mettre le spin dans un état superposé up plus down, qu'on a déjà vu, hein, il suffit d'appliquer par exemple un protocole de RMN et s'arrêter à mi-chemin, et bien ensuite on demande à la boîte quantique d'émettre un photon et on a l'état spin up polarisation gauche plus spin down polarisation droite. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Ce que je n'avais pas mentionné à l'époque, c'est qu'on peut faire ça donc avec aussi un qubit unique en cavité et avec une indiscernabilité des photons qui est nécessaire pour faire des mesures de Bell, qui est très bonne, aux alentours au-delà de 80-90%. Voilà, et dernier exemple que je vais vous donner. Ça paraît un peu catalogue comme ça, mais vous allez voir ensuite qu'en fait, chacun de ces objets trouve des briques de base dans des réseaux quantiques et qui ont chacun des avantages et des spécificités très particulières et des réalisations très impressionnantes. Le dernier point que je veux mentionner, c'est les centres NV. On a vu ensemble le premier cours, c'est défauts dans le diamant. On avait eu le séminaire de Jean-François Roch qui nous avait expliqué comment on fait tout un tas de capteurs à partir de ces défauts dans le diamant. Eh bien, ces centres NV sont également des très bonnes mémoires quantiques pour garder la formation sur un spin. Et donc, je prends ici alors, une structure de niveau d'énergie simplifiée qui vous illustre le fait que si vous partez d'un état excité que j'appelle ici A2, c'est un état, en fait, quand on regarde le détail de comment cet état est construit, c'est un état qui correspond à une superposition quantique entre un état de fonction orbitale E- et un spin plus 1, plus un état d'orbital E+, et un spin moins 1. Alors, sans comprendre le détail, simplement, quand on part de cet état-là, quand il émet un photon, eh bien, les orbitales particulières nous donnent des photons de polarisation différentes, ce qui fait qu'à la sortie, vous avez un photon sigma moins polarisation qui tourne à gauche pour un spin qui pointe qui vaut plus 1, ou sigma plus si le spin vaut moins 1. Et donc ça, c'est un premier article qui a montré cette intrication spin-photon en 2010, qui montre que ces oscillations, ces corrélations parfaites entre la polarisation du photon et l'état du spin. Alors, 2010, c'est vraiment l'année où ce genre de protocole a commencé à émerger dans tous les systèmes. On a commencé vraiment à être capable d'intriquer des spins uniques dans des systèmes à l'état solide avec des photons. Avec des ions, ça a commencé dans les années 2000-2007. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces années-là, 2000-2000. Entre 2005 et 2012, on a à peu près intriqué n'importe quel système unique avec un photon. Et ensuite, ils ont regardé les corrélations entre le fait que le photon soit polarisation circulaire droite, le spin moins 1, circulaire gauche et le spin plus 1, et puis ensuite dans des bases diagonales pour montrer l'intrication. Alors ce système, vous allez le voir, je vais vous le montrer, est extrêmement avancé, et je vais vous montrer à la fin, on a l'Alliance de l'Internet quantique européenne, que je vous présenterai à la fin du cours, qui a réalisé des réseaux de communication avec 3 nœuds distants de plusieurs dizaines de kilomètres à partir de ces objets-là. La difficulté pour passer à plus grande échelle, c'est que pour l'instant, dans ces systèmes-là, qui sont des très bonnes mémoires quantiques qui gardent la formation pendant des millisecondes, c'est très bon comme mémoire, la collection des photons n'a pas encore été rendue efficace. Ils n'ont pas encore mis leur système dans des cavités. Donc ils ont des très bons temps de mémoire, mais des flux de photons très faibles. Et donc je vous montre ici, c'est un papier très récent de l'an dernier où ils commencent à être capables de le faire. Et on va pouvoir commencer à augmenter le taux d'émission de ces mémoires quantiques pour accroître le débit de ces réseaux. Voilà. Alors, passons maintenant à quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est le stockage d'informations dans des mémoires quantiques à ensemble de spins. Alors, quand je dis spin, hein, depuis tout à l'heure, en fait, je veux dire système à 2 niveaux, système à 3 niveaux, enfin, c'est le système, le qubit stationnaire. J'appelle ça spin de manière générale. Quand je dis que c'est plus compliqué, vous allez voir, c'est plus compliqué à comprendre conceptuellement comment ça marche. Par contre, c'est beaucoup plus simple à implémenter et c'est en fait ce genre de mémoire quantique qui sont majoritairement implémentées de manière pragmatique aujourd'hui. Alors, à quoi ça ressemble? Je reprends cette image de ces articles de revue. On va cette fois-ci ne pas prendre un seul système, un seul atome, un seul spin, mais un ensemble, un grand ensemble, qui sont tous dans leur état fondamental G. Et je vais envoyer un photon unique sur cet ensemble d'atomes. Et d'un point de vue tout à fait fondamental, si vos atomes sont complètement identiques et que votre photon a la même probabilité d'interagir avec tous, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez exciter un de ces atomes grâce au photon, mais vous n'allez pas savoir lequel. Et donc votre système, comme toujours en mécanique quantique, si vous ne savez pas par quel système votre chemin est passé, vous allez créer en fait une superposition quantique de toutes ces possibilités. Et c'est ce que j'ai écrit ici. On va créer un état dans lequel on a une somme d'avoir un de ces atomes dans un état particulier, un état S qui est un état métastable, mais c'est une somme superposition quantique de tous ces états-là. Et donc vous voyez que la formation, d'un seul coup, elle passe d'un qubit unique à un ensemble des qubits, et c'est l'ensemble des qubits qui porte toute l'information. Moi, je trouve que c'est absolument magnifique de penser qu'on est capable de porter l'information sur un ensemble de qubits, et vous allez voir, de la restituer ensuite. Alors c'est ça qu'on appelle une onde de spin, parce qu'en fait c'est la combinaison, vous voyez ici il y a des facteurs de phase, qui permet d'encoder l'information, de porter l'information d'un qubit de photon à ces ensembles d'atomes. Et puis de manière symétrique ensuite, cette onde de spin, si on redonne de la lumière, elle va restituer un photon. Alors les systèmes qu'on utilise sont indiqués ici, quand j'appelle ça un ensemble d'états, en fait on va utiliser un grand nombre d'atomes, de systèmes qu'on appelle en lambda. C'est notre jargon pour dire qu'on a deux états en bas et un état en haut. Ça fait l'athlète lambda. Donc vous avez ici l'état fondamental dont je vous ai parlé, un état excité E ici, et un état S qu'on appelle un état métastable. Et on va utiliser pour faire ça un laser très intense ici entre cet état-là et on n'est pas à résonance avec l'état excité. Vous allez voir, tout le jeu, c'est de ne pas avoir d'absorption. On ne veut pas créer d'absorption, on veut emmener l'information sans emmener de perte de l'énergie. Parce que quand j'absorbe, je perds de l'énergie d'un système et je le transfère sur l'autre. Et puis mon photon unique, ici, va être entre cet état-là et le même état virtuel que j'ai écrit en pointillé ici. Alors on va regarder ensemble. Donc, pour les non-experts, vous avez ici toute l'histoire d'un point de vue qualitatif, comment on transfère la formation d'un atome à un ensemble d'atomes de manière cohérente. Maintenant, je vais vous montrer de manière un petit peu détaillée, avec des équations simples, comment on décrit ce fonctionne, comment ça fonctionne. Et là, je reprends tout le formalisme qu'on a introduit ensemble, notamment les équations de Bloch optiques, qui permettent d'écrire l'hamiltonien, qui décrit l'interaction entre mes trois niveaux ici et mes deux champs optiques. Je reste dans un système très simple, où vous voyez ici, le premier terme ici, qui fait passer de l'état G à l'état E ici, c'est le lien entre cet état-là et cet état-là. Cette interaction-là, elle est médiée par le photon unique qui est décrit ici par l'absorption d'un photon A. Et j'ai un terme de phase qui vient en fait de la phase de mon laser, de mon photon, sur lequel j'ai l'information. Et puis ici, j'ai un autre terme qui fait apparaître l'état, qui relie l'état S ici. Alors, je n'ai pas précisé, cet état S, c'est là où on va mettre l'information, c'est un état qui a un très long temps de vie. On appelle ça un état métastable. Et l'état excité à nouveau ici, I. Sauf que cette fois-ci, je ne décris pas ça comme un champ quantique avec des opérateurs, mais je décris directement que c'est un champ classique parce que j'y mets plein de photons. Ensuite, je vais considérer que je vais me mettre dans une situation où avec mon photon unique, je vais créer un seul quantum d'énergie possible. Donc je me restreins à un seul quantum d'énergie. Donc j'ai trois termes possibles, soit l'énergie dans mon photon, c'est l'état 1 et tous les atomes sont l'état fondamental, G. Soit le photon a permis d'aller dans l'état excité E, dans les états excités des atomes, un atome est excité, tous les autres sont des états fondamentaux. Et puis, troisième cas possible, mon photon m'a permis, ou ma combinaison de laser et photon m'a permis d'aller vers l'état où le photon n'est plus là, et je suis dans l'état métastable ici. Mais à chaque fois, c'est un seul atome qui est excité à chaque fois. Et donc, avec ce jeu d'équations ici de l'hamiltonien et de mon état qui considère que je ne vais jamais créer plus qu'une excitation, je peux écrire les équations de Schrödinger, ça me donne ces relations. Je ne fais pas le calcul au tableau, hein, ce n'est pas mon but. Je vais simplement vous montrer, regardez cette équation-là, qui relie le coefficient qui me donne la probabilité d'avoir un photon et tous les atomes dans l'état fondamental. Comment il évolue dans le temps? Eh bien, il évolue dans le temps en se couplant vers l'état excité E ici, mais une somme de ces états excités. Et donc, vous voyez qu'on peut faire apparaître ici, en fait, une fonction qui est cette somme linéaire ici, de ces coefficients avec des termes de phase là, qui va me permettre de réduire très simplement cette équation à quelque chose comme C égale moins IG P point ici. C point égale moins IG P. Quelque chose de très simple et qui fait apparaître, en fait, qui commence à faire apparaître une excitation collective, mais cette fois-ci de l'état excité. Si j'introduis ça maintenant, ce C point ici dans la deuxième équation, mon C ici, c'est donc quelque chose qui est porté sur tous les états avec cette onde P ici-là, et qui va faire apparaître en plus des termes avec des autres termes sur les CS, donc sans rentrer dans le détail, naturellement sort une autre fonction qui cette fois-ci décrit une onde sur les états et métastable ici, où qui correspond au coefficient d'avoir chaque atome dans l'état S correspondant. Et quand j'ai fait son changement de variable, Je peux réécrire mes équations de Schrödinger de manière très simple, comme montré ici. Vous voyez que là, ça commence à devenir simple. Je peux décrire l'état quantique dans lequel se trouve mon système de manière plus simple, donc le photon et tous les atomes dans l'état fondamental, ou cette excitation collective, ici, de tous mes atomes dans l'état excité. Enfin, pardon, une superposition de chacun mes atomes dans un état excité, avec un coefficient qui est P, ou une superposition de chacun de mes atomes dans l'état métastable et le coefficient S. Et ensuite, le jeu, c'est simplement de trouver un jeu de paramètres qui me permet de passer de là, d'emmener l'info portée par mon photon vers cet état-là, sans créer de population dans l'état excité. Donc simplement, sur les équations, ça me donne une condition ici qui est écrite là, ça me permet de définir un coefficient θ, et on trouve que la solution existe. Il est possible d'emmener mon système de l'état 1G vers l'état où il n'y a plus de photons et j'ai mis toute l'information dans une excitation collective d'état métastable, d'atomes dans l'état métastable, en passant de manière transitoire progressivement d'une situation où au début mon laser orange ici est allumé, donc oméga est très grand, θ vers 0, donc mon état est dans 1G, et puis j'éteins mon laser, la tangente de θ tend vers l'infini, ça veut dire que θ tend vers π sur 2, et c'est-à-dire que je vais vers l'état 0s. Et j'ai écrit mon information, je l'ai transférée de mon photon vers une excitation collective. Expérimentalement, ça ressemble à ça. On a le signal qui est envoyé ici, et le contrôle qui va être éteint pour stocker l'information, puis rallumé pour la restituer. Voilà, alors ce genre de protocole ont été démontrés il y a longtemps, 25 ans, sur des ensembles d'atomes de rubidium, par exemple, que vous voyez ici, avec des systèmes, comme je vous l'ai montré, entre deux états, un système lambda avec deux états fondamentaux, deux lasers, et ici, vous voyez en fait le processus, vous voyez en pointillé en haut, le laser qui permet d'écrire, hein, et puis qu'on éteint et qu'on allume. Là, j'ai écrit l'information, et ici, vous voyez, 200 microsecondes plus tard, je la récupère sous forme d'un photon. Alors vous voyez qu'entre le moment où j'écris et le moment où je récupère, là je n'ai pas quelque chose de 100% efficace. Hein. J'ai perdu en intensité de mon signal, donc il y a beaucoup de travail au-delà de transpirer la formation de manière fidèle pour ne pas perdre l'information simplement. Ce genre de processus ont été développés de manière très intense dans nombreux matériaux, des atomes qui ne sont pas forcément froid, des nuages d'atomes, mais aussi sont de plus en plus miniaturisés. Alors vous voyez ici une réalisation récente dans un cristal, dans un guide d'ondes. Donc en fait l'objet qui fait la mémoire quantique est ici. C'est une puce en verre dans laquelle on a dopé avec des atomes de terre rare. Les atomes de terre rare constituent une assemblée d'atomes qui vont permettre d'avoir ce système en lambda. Et tout ça est intégré sur une petite puce en verre. Et vous voyez ici, vous avez une source de photons unique ici, là, Spontaneous Parametric Down Conversion. On détecte le signal jumeau et le signal est envoyé sur cette mémoire quantique. Et alors, ce qu'il y a de spectaculaire dans ce genre de réalisation, c'est que non seulement maintenant c'est miniaturisé, c'est dans un système à l'état solide, à température ambiante, sans faisceau laser pour piéger les atomes, quoi que ce soit, donc on est vraiment sur un truc hyper, compatible avec une miniaturisation, mais en plus, ils utilisent des atomes artificiels à l'état solide, et ces atomes artificiels, comme ils sont dans une matrice de verre, ils ressentent tous un environnement différent. Et c'est ce qui est représenté ici, en fait, ils ont tous des fréquences différentes. Et donc vous avez en fait pas un ensemble d'atomes, mais vous avez N ensemble d'atomes. Et à chaque fréquence, vous avez assez d'atomes pour stocker une information. Et donc ils peuvent multiplexer, c'est une mémoire quantique qui va pouvoir stocker de l'information à différentes fréquences, ce qui nous rapproche énormément du domaine du multiplexage des fréquences dans les technologies d'information classiques qui permettent d'augmenter très sensiblement le débit de l'information. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est une mémoire quantique qui marche à un grand nombre de fréquences et qui permet de stocker de l'information ainsi. Voilà, donc vous avez ce genre de mémoire. Et puis comme nous sommes dans la chaire d'innovation technologique, je voulais vous présenter également Mémoire quantique à base d'atomes de césium développée au laboratoire Kassler-Brossel dans le groupe de Julien Laura, qui est maintenant devenu un objet commercial, commercialisé par la start-up WeLink, qui est basé sur un nuage d'atomes de césium, et sur des atomes qui sont utilisés pour les horloges atomiques, dans lesquels ils vont venir stocker et retrouver des photons de manière avec une efficacité très importante. Je suis désolée, je ne connais pas les derniers chiffres. La publication que j'ai prise ici, qui date de 2018, était aux alentours de 60%, mais je crois que les chiffres ont largement augmenté depuis. 85%, me dit-on. Voilà, alors, on a regardé ensemble des mémoires et des systèmes quantiques avec un seul atome ou avec des ensembles. Avantages et inconvénients. Eh bien, d'un côté, vous avez les systèmes qui utilisent un qubit unique pour stocker l'information ou la renvoyer. C'est magnifique. Ça vous permet de faire un contrôle individuel absolument à l'extrême. De faire du calcul local, c'est ce qui vous permet de faire une interface naturelle entre un qubit pour un ordinateur quantique et un photon. Mais malheureusement, cela demande des prouesses technologiques assez admirables, de mettre votre atome dans une cavité pour que vous ayez une très bonne interface. Et puis, mettre tout ça en œuvre, c'est extrêmement complexe. Hein, vous avez vu, on est en train d'accumuler tout ce qu'on a raconté les semaines dernières pour réussir à faire ça. De l'autre côté, vous avez des ensembles qui permettent de stocker l'information. L'avantage, c'est que ça fonctionne en espace libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de structures photoniques particulières, etc. À température ambiante, voire même, on appelle ça des vapeurs chaudes, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin nécessairement de refroidir vos atomes. Vous pouvez prendre une collection d'atomes qui ont des vitesses et vous en sortir. Le problème, c'est que donc c'est très pratique pour les réseaux. Vous avez un certain nombre de bruits supplémentaires qui apparaissent, et vous ne pouvez pas utiliser ce genre de système pour faire vraiment un transfert d'information locale à un réseau. Il s'agit simplement de stocker l'information pendant un certain temps, puis de le ressortir. Vous ne faites pas de porte logique. Bien. Eh bien, il nous reste maintenant à voir la conversion de fréquences quantiques. Maintenant, j'ai trouvé comment coupler des qubits stationnaires à des qubits volants, comment stocker de l'information, etc. Il me reste à mettre tout ça dans un réseau. Et alors là, je suis désolée, j'ai oublié de le faire, de vous mettre une image du spectre de transmission d'une fibre optique, du verre. Quelles sont les fenêtres qui permettent de transmettre efficacement à travers les fibres optiques ou à travers l'atmosphère quand on veut communiquer vers satellite. Alors, dans les fibres optiques, on a deux fenêtres de transmission bien identifiées. Longueur d'onde 1,3 micron pour des réseaux de courte distance, 1,5 micron de longueur d'onde pour les réseaux longue distance. C'est vraiment la meilleure fenêtre de transparence pour les fibres optiques. Et là, je vous mets une galerie de qubits que nous avons vus ensemble, supraconducteurs, ions piégés, atomes neutres, qubits de spin, centres colorés dans le diamant, boîte quantique semi-conductrice, photons, ions de terre rares, etc. Je vous ai donné ici des exemples de qubits. Donc, on a vu donc, les qubits supraconducteurs, on a différentes architectures. Des ions, on a vu qu'il y a des transitions optiques ou des transitions hyper fines qui fonctionnent dans le domaine micro-ondes. Des atomes neutres, rubidium ou césium, des qubits dans le silicium de spin avec des silicium germanium. On avait vu ensemble les phosphores, les atomes de phosphore dans le silicium, les centres colorés dans le diamant, les boîtes quantiques, etc. Et à droite, je vous ai mis toutes les longueurs d'onde à laquelle ces objets avec lesquels ces objets se couplent à la lumière naturellement. Donc les boîtes quantiques qu'on a vues ensemble qui font des sources de photons uniques très efficaces, on est en autour de 900 nanomètres 1 micron, donc on n'est pas aux longueurs d'onde télécom pour l'instant, même s'il commence à y avoir des progrès aussi dans ces longueurs d'onde-là. Les ondes terres rares sont sympathiques parce qu'ils sont directement à la bonne longueur d'onde. Les centres colorés dans le diamant sont à des longueurs d'onde très peu efficaces, très peu pratiques pour les fibres optiques. On est carrément dans le rouge, là, on absorbe beaucoup. Les atomes de Rydberg de la même façon, les atomes de calcium, de strontium, etc. Et puis, alors, c'est-à-dire que là, en fait, toutes les longueurs d'onde qui sont dans le rouge, et ne parlons même pas d'ici de l'ultraviolet, tout ça, ça va très mal se passer dans les fibres optiques pour les longueurs d'onde télécom. Hein, donc, vous n'allez pas emmener le signal très loin. Mais on va regarder, on est capable de transférer l'information de ces longueurs d'onde-là vers les longueurs d'onde télécom. Et puis, vous avez ici le cas des qubits qui se couplent simplement avec de la lumière micro-ondes, comme les qubits supraconducteurs qu'on a vus notamment avec Audrey Bienfait dans son séminaire lors du cours numéro 4, et qu'on avait également abordé la semaine dernière quand on a parlé d'optomécanique. Et les qubits de spin dans le silicium, de la même façon, c'est des qubits pour la plupart d'entre eux. Il commence à y avoir des qubits qui émergent, qui se couplent à la lumière, mais la plupart d'entre eux se couplent plutôt à des systèmes micro-ondes. Et de la même façon, pour les atomes de Rydberg, ça dépend de là où vous voulez encoder l'information. On avait vu ensemble, si vous l'encodez sur deux états fondamentaux hyper fins, vous allez être également dans des qubits, dans des transitions micro-ondes. Alors traitons d'abord quelque chose d'une certaine façon simple, qui est la conversion de fréquences quantiques de longueurs d'onde optique vers des longueurs d'onde optique. Et en fait, là, je ne vais rien vous apprendre de plus que ce qu'on a regardé ensemble. On a regardé au cours numéro 2 la conversion de fréquences. J'ai décrit la conversion de fréquences avec des équations non linéaires classiques, en vous montrant que dans un cristal, on a une polarisation non linéaire qui apparaît, qui est proportionnelle à l'intensité, le module au carré du champ électrique. Et qu'en introduisant ça dans les équations de Maxwell, on a des termes de génération. Et si on part, par exemple, de deux fréquences oméga 1 et oméga 2, eh bien, en regardant ce terme de polarisation non linéaire, on voit apparaître des termes de génération de seconde harmonique, qui sont deux fois oméga 1, deux fois oméga 2, de somme de fréquences, oméga 1 plus oméga 2, ou de différence de fréquences. Donc je vous ai déjà donné tout le formalisme. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, pour faire de la conversion de fréquence quantique, je vais mettre un laser pompe, vous avez vu, j'ai mis une grosse flèche, hein, vous allez voir, il est très intense, et un petit photon, un état de Fock à un photon ici, et ce laser de pompe, très intense, va me permettre de transformer cet état à un photon à une autre longueur d'onde. C'est ce qui est fait dans cet article de 2020 du groupe d'Arai-Weilforter à l'université de LMU de Munich avec des atomes de rubidium. Vous avez ici un atome du rubidium piégé. Il n'y a pas de cavité optique ici. Et en fait, ils font même de l'intrication. C'est-à-dire que vous voyez les états de cet atome du rubidium. Ils vont utiliser une excitation qui va donner un état intriqué entre deux photons de polarisation circulaire gauche, circulaire droite et deux états hyper fin de l'état fondamental. Et cet atome donc émet ces photons rouges qui sont dans un état intriqué avec l'état de l'atome. Et ils vont ensuite emmener ces photons ici, soit pour une mesure, pour mesurer qu'il y a vraiment un photon, soit ici, vers un dispositif de conversion de fréquence. Donc vous avez le photon rouge qui arrive là, qui va arriver dans cet interféromètre de Sagnac ici, et un laser de pompe à 1 micron 6 de longueur d'onde. Et à la sortie, si vous faites le calcul de la somme de la différence de fréquence, eh bien on récupère un photon à 1,522 nanomètres. Et ensuite, ils peuvent vérifier qu'ils ont effectivement un photon, donc ils vont envoyer leur photon sur un cube séparateur et faire des corrélations ici pour regarder l'intrication des photons, etc., etc. Alors je vous montre ici, c'est un des groupes leaders de la conversion de fréquence au niveau international. L'efficacité de conversion, alors external, ça veut dire de bout en bout, tout considéré. La probabilité de transférer un photon à une longueur d'onde et de l'envoyer à une autre longueur d'onde est dans cette publication qui a 5 ans, de 57%. Je crois que les chiffres les plus récents sont autour de entre 65 et 70. On a gagné presque 10% depuis. Et puis vous voyez qu'en fait ce processus de conversion, il dépend un petit peu de la polarisation des photons. Donc eux, comme ils veulent transférer de la formation de photons intriqués en polarisation, ils vont se mettre à des points de conversion de fréquence aux alentours d'ici. Et là vous voyez que pour convertir un photon, ils envoient 200 milliwatts de laser. D'accord ? On est vraiment dans un truc assez incroyable. Vous avez d'un côté, je ne sais pas combien de photons ça fait, 200 milliwatts, mais c'est une puissance absolument phénoménale. Un petit photon. Et à la sortie, il faut récupérer un autre petit photon à une autre fréquence. Donc ça fonctionne. On n'est pas complètement sûr que ça soit un système qui soit très... qu'on peut passer à l'échelle très facilement, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de puissance, 200 milliwatts. Et dans cet article, ils nous montrent comment ils ont fait ce transfert et testé sur des distances plus ou moins longues de propagation de leurs photons à la longueur d'onde télécom, à partir au départ d'une longueur d'onde de 780 nanomètres. Ils regardent la fidélité des états intriqués, etc. Donc, pour vous dire que dans ce processus, on préserve toutes les propriétés quantiques. Alors qu'on a, si je puis me permettre, un laser avec une puissance, un nombre de photons absolument délirant, qui interagit dans un matériau non linéaire avec un photon unique, vous gardez toute la formation quantique. Donc ça, c'est typiquement des protocoles qui sont utilisés de manière routinière maintenant. Il y a des sociétés, d'ailleurs toujours la même société Winink, commercialise des convertisseurs de fréquences quantiques. En fait, ce n'est pas très compliqué, il vous faut un matériau non linéaire et suivant la fréquence où vous voulez aller par rapport à celle où vous êtes, vous devez avoir un laser à une longueur d'onde qui va bien. Et voilà, ça n'existe pas toujours, mais si ça existe, vous pouvez convertir. Alors, un des avantages, donc ça va nous permettre d'amener des atomes du rubidium à 780 vers les longueurs d'onde télécom, des centres NV vers les longueurs d'onde télécom, etc. Là où je voulais vous montrer une illustration qui est aussi, je dirais que c'est une propriété intéressante supplémentaire. Ça a été réalisé également avec deux sources de photons uniques très brillantes, les sources les plus brillantes qui existent aujourd'hui, qui ont été réalisées dans le groupe de John Weipan en Chine, avec des boîtes quantiques ici dans les micropilia à gauche ou dans d'autres types de cavités à droite. Ils ont fait cette conversion de fréquence entre des boîtes quantiques qui, si vous lisez ici les chiffres, étaient à 893 nanomètres pour la boîte de gauche et 891 nanomètres de longueur d'onde pour la boîte de droite. Et donc quand vous avez des systèmes à l'état solide, hein, on en a parlé, en fait, ils ont souvent des longueurs d'onde différentes les uns des autres. Donc une façon, c'est de prendre le contrôle sur cette longueur d'onde en mettant tout un tas d'outils de contrôle du champ électrique appliqué, de la contrainte mécanique appliquée pour contrôler les longueurs d'onde. Mais ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est que eux, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tous les deux transférer, convertir en fréquence, mais en jouant sur les paramètres du cristal qui permet de convertir la fréquence, eh bien, ils vont ramener les deux photons à la même longueur d'onde télécom. Ils vont les faire coïncider à la même longueur d'onde télécom. Ils vont prendre les photons qui étaient au départ pas identiques du tout, identiques via la conversion de fréquence. Et ici, ils font ici au milieu en fait un protocole d'interférence quantique du même genre que celle de la mesure de Bell. Bon, là, ils ne parlent pas de photons intriqués, mais sur une interférence de Rongo-Mandel ici. Et ils montrent une très belle indiscernabilité de photons qui au départ n'étaient pas du tout identiques. L'efficacité de conversion ici, vous voyez, est toujours aux alentours. Alors, elle est un peu plus faible, mais enfin, on est quand même aux alentours de 50-55%. Bien, alors, jusqu'ici, on est dans des protocoles avec, on va de photons optiques vers d'autres photons optiques. Le problème est beaucoup plus crucial quand on veut aller de photons micro-ondes à des photons optiques. Et là, je vous montre un des papiers les plus récents qui est sorti l'an dernier dans Nature Nanotechnologie, où ils ont un dispositif qui commence à fonctionner et qui mélange ce qu'on a vu la semaine dernière sur les capteurs optomécaniques, les résonateurs optomécaniques, l'optique micro-ondes et l'optique longueur d'onde optique. Et donc, vous voyez ici, en fait, un résonateur micro-ondes, une cavité optique, qui a un miroir ici qui est flexible, couplé à une des plaque d'une capacité ici qui est couplée à un résonateur mécanique. Et donc ce que ce protocole fait ici, c'est qu'on va envoyer une onde à une longueur d'onde micro-ondes qui va se coupler au résonateur mécanique qui va mettre en mouvement ce petit résonateur. Et on l'a vu la semaine dernière, on peut coupler le mouvement d'un résonateur mécanique à une cavité optique et transférer de l'information de l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'il fait ici, le résonateur mécanique va aussi moduler la fréquence optique du résonateur optique et va permettre de transférer la formation du micro-onde vers l'optique ici. Alors vous reconnaissez hein, les objets avec lesquels ils font ça, vous reconnaissez des choses que je vous ai présentées la semaine dernière, des cristaux phononiques ici, avec ici un cristal qui fait un résonateur mécanique. Ce qu'ils ont fait dans cette publication, c'est qu'ils ont découplé sur la puce sur laquelle ils font tout ça, le résonateur mécanique du résonateur optique parce que vous avez des problèmes d'échauffement par la partie optique. La partie optique apporte beaucoup d'énergie alors que la partie micro-ondes a besoin d'avoir très très peu d'énergie puisqu'on est dans des domaines de fréquences extrêmement différents. Et ce résonateur mécanique est couplé à un résonateur micro-ondes. Alors on voit ici la puce hein, où ils ont physiquement séparé les fibres optiques qui sont couplées au résonateur optique du résonateur micro-ondes et au milieu on a, vous voyez, vous reconnaissez hein, ces guides d'ondes qui font à la fois un résonateur mécanique et un résonateur optique couplé. Et vous voyez ici les spectres de bruit que je vous avais présentés qui montrent les résonances mécaniques qui sont aux fréquences de 5 GHz, donc une longueur d'onde micro-ondes qui peut être intéressante pour un qubit supraconducteur et qui va convertir vers un qubit photonique. Vous voyez ici des courbes d'efficacité externe. Alors, on n'est pas du tout à 60%, on est au maximum aux alentours de 10%. Et puis à gauche, ils regardent le bruit qu'ils ajoutent dans leur conversion de fréquence, parce que pour l'instant, c'est vraiment je dirais, les premières expériences concluantes dans ce genre de domaine. On ajoute beaucoup de bruit pour l'instant. Et donc, pour rester dans la zone grisée où on ajoute assez peu de bruit, en fait, ils disent dans l'article que la transduction, on parle de transduction plutôt que de conversion de fréquence, parce qu'on change complètement de domaine de fréquence, est quantique, avec une efficacité dans une gamme d'efficacité de 2 à 3%. Ce qui est déjà un tour de force, hein, parce qu'il y a quelques années, on était plutôt à la dixième de pourcent ou centième de pourcent. Donc ça commence à venir. Et maintenant, je vous ai donné toutes ces briques de base dans les 10 dernières minutes. Je vais vous montrer comment les chercheurs commencent à faire des réseaux quantiques en mettant tout ça ensemble. On est sur des réseaux élémentaires. On est loin de réaliser le réseau que je vous ai dessiné de manière fictive au début, hein. Alors juste pour même pour se rappeler, pour l'instant j'avais transféré l'information d'un photon à un autre photon en utilisant du transfert d'intrication. Maintenant que je sais intriquer un atome, un ion avec un photon à gauche par exemple et un autre ion avec un photon à droite, je sais les mettre dans des états de Bell. Eh bien, je peux prendre le photon qui est intriqué avec un spin à gauche et l'autre à droite, je peux les prendre et les envoyer ici pour bien sûr réaliser une mesure de Bell. En faisant cette mesure de Bell, j'ai toujours les mêmes écritures en termes d'état, sauf que tout à l'heure c'était photon-photon, maintenant c'est 2, 3, c'est 2 photons, et 1, 4, c'est 2 atomes, 2 ions, 2 spins. Et donc je fais une mesure de Bell, et qui me dit, si j'ai deux clics là, que je viens de mettre l'ion de droite et l'ion de gauche dans l'état intriqué psi-. Et c'est comme ça que je vais pouvoir intriquer deux systèmes quantiques physiques à distance. Et c'est vraiment le début, la brique de base dont on a besoin pour commencer à étendre la puissance de calcul entre plusieurs calculateurs quantiques. Alors, ce genre de système, je vous montre une autre réalisation. Ça a été fait, par exemple, ici, avec deux ions piégés, dans cet article de 2012, avec deux ions qui sont intriqués avec un photon, un à droite, un à gauche, une mesure de Bell ici au milieu. Et puis, il a fallu travailler très très dur pour que le photon émis par le piège de droite et le photon émis par le piège de gauche soient absolument identiques. Et là, ce que vous voyez, c'est le profil temporel des photons. Il faut les rendre absolument identiques. C'est énormément de conditions pour que ça fonctionne. Et donc, ils ont montré un chiffre qui est quand même très spectaculaire d'intrication de deux atomes dans des états de Bell avec une fidélité de plus de 80%. Là où c'est moins impressionnant, c'est que ça arrive une fois toutes les 100 secondes. Parce qu'il n'y avait pas de cavité dans ces systèmes à l'époque. Je vous montre ici une autre réalisation, cette fois avec des défauts dans le diamant. Donc on passe dans des systèmes à l'état solide. Deux systèmes qui étaient au départ à 3 mètres, et je vais vous montrer dans le 3-4 diapositives qu'ils ont fait ça maintenant sur des dizaines de kilomètres. Deux atomes de diamant. Alors là, je vous le mentionne parce que c'est intéressant de connaître cette nuance. Il est aussi possible, jusqu'à présent, j'ai toujours intriqué le spin avec un photon, par exemple, qui tourne à droite, puis l'autre spin avec un photon qui tourne à gauche. En fait, ici, dans ces protocoles, ils ont des états intriqués entre le spin qui pointe vers le haut, un photon, et le spin qui pointe vers le bas, pas de photon. Donc, ils encodent l'information sur l'absence de photon. Et c'est comme ça des deux côtés. Quand j'écris maintenant l'état à deux aux deux systèmes, j'ai des états avec les deux spins qui pointent vers le haut, deux photons, un à gauche, un à droite, un spin qui pointe vers le haut, l'autre pointe vers le bas, et un photon à gauche ou un photon à droite, ou les deux spins qui pointent vers le bas et zéro photon. Et donc là, en fait, on a ce qu'on appelle, sans rentrer dans le détail, on a aussi des protocoles qui sont basés sur des mesures de Bell à un photon, au lieu de faire des mesures de Bell à deux photons. Et juste, je ne vais pas vous lire ça, en fait, ce que je voudrais vous faire juste comprendre, c'est que ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque atome va envoyer un photon ou pas. Et vous avez un détecteur à la sortie de votre cube séparateur, et si les photons sont identiques, vous allez avoir un photon qui va être détecté soit d'un côté, soit de l'autre, mais vous ne savez pas s'il vient de droite ou de gauche. Et comme vous ne savez pas s'il vient de droite ou de gauche, eh bien, en fait, vous allez intriquer le spin de gauche et le spin de droite. C'est votre incapacité à dire d'où vient le photon qui va permettre d'intriquer les photons. Alors, ce genre de protocole sont intéressants parce qu'au lieu de faire des mesures à deux photons, vous faites des mesures à un photon, donc le débit est meilleur. Si la transmission de votre canal est moins bonne, c'est la transmission simplement qui intervient et pas la transmission au carré. Et donc vous voyez ici une réalisation en 2013 avec des fidélités d'alentour de 80%. Et alors là, une intrication toutes les 10 minutes. Voilà, alors j'arrive au bout de cette présentation et je voulais, pour vous donner une vision de ce qui se passe aujourd'hui, et on rentre vraiment dans quelque chose de massif dans le terme d'effort international dans le développement de réseaux quantiques, j'ai pris cette image de la cartographie des partenaires au niveau européen qui travaillent à développer ce qu'on appelle l'Internet quantique au niveau européen, le Quantum Internet Alliance. Vous voyez que vous avez des partenaires à la fois industriels et académiques partout en Europe, des gens qui travaillent sur les cryostats, les lasers, les systèmes à base d'ions, d'atomes, de centres NV, etc. Et Tracy Northrup, que j'ai invité pour le séminaire ensuite, fait partie des acteurs majeurs de cette alliance pour créer l'Internet quantique. Et donc je vous présente ici, dans les quelques minutes qui restent, cette carte qui montre une réalisation du groupe de Ronald Hansen aux Pays-Bas, où vous voyez qu'ils ont fait un réseau quantique avec trois nœuds. Vous avez un centre NV ici à Delft, un autre centre NV ici 10 km plus loin à La Hague, et la mesure de Bell ici au milieu, quelque part, entre les deux, à 15 km d'un point et à 10 km de l'autre. Et vous voyez qu'ensemble, on passe par des réseaux de fibres optiques qui sont dessinés ici, qui sont des réseaux urbains, ce qui rajoute énormément de complexité parce qu'elles sont soumises à la vibration du métro, du train qui passe, de la lumière qui pollue, etc. Et donc, ils arrivent maintenant à faire ce genre de démonstration. Je voulais vous montrer aussi ce dispositif qui va encore un petit peu plus loin, qui va de plus en plus vers la partie compacte, industrialisée des mémoires quantiques. Donc, c'est réalisé par le groupe de Wolfgang Tittel, toujours aux Pays-Bas, où ils sont capables de vraiment multiplexer un grand nombre de longueurs d'onde dans une mémoire quantique ici. Donc, on voit aussi une belle réalisation qui combine des systèmes de sources, des peignes de fréquence à des mémoires quantiques multimodes. Et puis, je voulais absolument vous montrer cette image-là, parce que je la trouve absolument bluffante. Cette réalisation réalisée à Innsbruck, vous voyez en haut une cavité. Et puis ici, vous devez reconnaître la petite chaîne d'ions que je vous ai montrée pour faire un ordinateur quantique à base d'ions, une chaîne linéaire pour faire du calcul quantique. Et donc, ils amènent les ions les uns après les autres dans la cavité, ils les déplacent, toc, toc, toc. Et quand l'ion est dans la cavité, ils vont lui faire émettre un photon qui va être intriqué et qui va sortir très efficacement par la cavité. Et donc, vous avez ici une chaîne de 10 photons, chacun étant intriqué avec leur ion respectif. Et c'est la première étape pour commencer à passer à l'échelle sur du calcul quantique. On avait vu ensemble que les processeurs à base d'ions avaient une difficulté majeure pour passer à l'échelle, qui était le fait que pour faire les portes logiques, ils utilisent des modes de vibration et que l'espace de ces modes est saturé. Et que du coup, je vous avais montré une façon de faire qui était de déplacer les ions dans une zone pour faire le calcul et les stocker ensuite ailleurs. Et bien, une autre approche, c'est de coupler des processeurs de taille finie tous avec la lumière pour intriquer tous ces photons vers un autre processeur et étendre l'intrication sur deux processeurs quantiques à plus de qubits. Et puis ici, je vous montre ce que va nous présenter une partie du travail que Tracy Northrup va nous présenter, où elle a réalisé avec son équipe un réseau quantique avec des ions piégés dans des cavités sur la ville, dans le cadre de la ville de Innsbruck, ici en Autriche. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette série de 8 cours et je voulais vous laisser avec quelques informations supplémentaires. Notamment, je vous ai donné une image de la recherche aujourd'hui et des développements technologiques de ces technologies quantiques aujourd'hui, en 2020-25. Et c'est un domaine en plein essor qui avance à très grande vitesse. Et donc j'ai voulu vous donner ici des endroits où trouver de l'information sur ce qui se passe. Donc le premier site quantique, n'importe quoi, le site internet de l'Europe, de l'effort européen sur les technologies quantiques, qui a un nom très simple, qt.eu, qui vous donne toutes les informations à la fois de lancement d'initiatives, de lancement de projets, de résultats scientifiques, etc. Vous avez le site équivalent français du programme et équipement prioritaire de recherche qui fait partie de ces initiatives qui a été lancée par le gouvernement en 2021, en fait les 5 ans du plan quantique. Et une partie des financements qui ont été dédiés aux technologies quantiques ont financé bien sûr le développement des startups et de tout l'écosystème, mais également des recherches fondamentales. Et donc, en termes d'informations, j'ai ce site-là qui vous donne quand même beaucoup d'informations sur toutes les avancées scientifiques apportées par ce plan de recherche et qui souvent est connecté au développement des startups qui sont connectées à ces programmes prioritaires. Et puis, bien sûr, il faut regarder à l'international. Donc, je vous ai aussi mis le site de l'Initiative nationale quantique des États-Unis, qui donne pas mal d'informations ici, dans ce site-là. Et puis après, pour chercher d'autres pays, en fait, j'ai trouvé ce site qui rassemble en fait des nouvelles par pays. Et donc, vous pouvez trouver tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, c'est sûrement pas exhaustif, mais vous donner une bonne idée de ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà, alors je vais terminer avec 5 minutes d'avance aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence toutes ces semaines. Et puis, je veux absolument vous rappeler qu'on va continuer le 16 avril sur une journée dédiée aux technologies quantiques à base de lumière. Donc, journée entre 9h et 18h, en gros, au Collège de France, avec le programme qui est finalisé, qui est le suivant. Nous aurons un exposé introductif du prix Nobel Serge Haroche sur la lumière quantique et ses applications. Alors, je pense qu'il nous parlera à la fois d'aspects historiques et introduira historique sur la lumière classique et quantique. Ensuite, nous aurons un exposé du professeur Christine Silberhorn, qui est une spécialiste de la photonique quantique intégrée à l'université de Paderborn, en Allemagne. Ensuite, j'ai invité le professeur Antoine Heilmann de laboratoire Kassler-Brossels qui va nous parler de comment utiliser la lumière quantique pour accroître notre sensibilité à la détection d'ondes gravitationnelles. J'insiste, hein, toutes ces technologies quantiques nous ouvrent de nouvelles voies d'application à la fois industrielles, mais énormément également en termes de sciences fondamentales. Je pense que c'est un très bel exemple. Pause déjeuner. Après déjeuner, j'ai invité le professeur Alexia Ofèvre, qui est une pionnière dans le domaine de l'énergétique quantique et qui a lancé une initiative internationale pour réfléchir au coût énergétique des technologies quantiques. Et en particulier, puisqu'elle est spécialiste de l'optique quantique, elle nous proposera une perspective sur l'énergétique dans les processus quantiques élémentaires en informatique, en photonique quantique. Ensuite, nous aurons le professeur Hugues de Rigmaten, qui est un spécialiste des mémoires quantiques, dont je vous ai présenté quelques travaux vus de très loin, et des réseaux, et qui est un acteur également majeur de l'Alliance Internet quantique. Il me manque une oratrice, je suis absolument désolée, il me manque une oratrice, je corrigerai ça, américaine, qui vient d'un des groupes absolument leaders au niveau mondial de la capacité de détecter la lumière quantique. Un photon à la fois, ou plusieurs photons à la fois. Et puis, nous aurons deux exposés de Anaïs Dréau, qui est spécialiste de développement de centres de qubits dans le silicium. Alors, on a parlé que le silicium, c'était quand même un matériau roi pour l'électronique actuelle. Si on arrive à faire tout ce que je vous ai présenté ici, avoir des qubits à la fois stationnaires, couplés à la lumière, etc., dans le silicium, il y a un potentiel énorme. Et je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a peu de qubits de silicium qui sont couplés avec la lumière. Elle développe ce nouveau type de qubit de manière très prometteuse. Et puis, dernier exposé, d'Hugo de Fienne, qui nous présentera comment utiliser la lumière quantique pour faire de l'imagerie de manière plus efficace et plus sensible. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir le 16 avril.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.